VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel en Gambie. Le président de la Cour suprême, Emmanuel Fagouinlé, s'est récusé lundi de l'examen du recours porté devant cette juridiction par le chef de l'État, Yahya Jammeh, contre l'investiture de son successeur élu, Adama Barrow, prévu le 19 janvier. La Gambie est plongée dans une grave crise depuis que M. Jammeh a annoncé le 9 décembre qu'il ne reconnaissait plus les résultats de la présidentielle du 1er décembre, une semaine après avoir pourtant félicité M. Barrow pour sa victoire. Au Burkina Faso, le parquet militaire a requis 5 à 20 ans de prison ferme contre les 27 soldats membres de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, le RSP. Ces éléments de l'ex-garde prétorienne du président déchu, Blaise Compaoré, sont accusés d'avoir voulu libérer leurs collègues emprisonnés après le putsch raté en septembre 2015. Le procureur militaire Alioune Zanré a demandé 20 ans de prison pour 3 des 29 accusés. Au Bénin, lutte contre l'urbanisation incontrôlée dans certaines grandes villes du pays et les autorités n'hésitent pas à recourir à l'arme du déguerpissement. Retrouvons à Cotonou Ginette Fleur Adandé.
Depuis le démarrage de cette phase de décapissement, les vendeurs d'essence de contrebande seraient, selon certains, la cible privilégiée du préfet de l'Atlantique littoral, Modeste Toboula, qui donne ici quelques clarifications.
Le maillon essentiel de cette opération, c'est la libération systématique de tout ce qui est produit ou homme qui occupe le domaine public. Les voies publiques sont totalement interdites d'occupation pour vente de produits illicites. C'est clair, c'est net. Quel que soit ce qui va se passer, les individus qui vont se mettre en travers du règlement vont subir les rigueurs de la loi. Parce que nous n'allons pas permettre que nous puissions faire des efforts pour déguerpir les gens et que d'autres personnes s'installent avec des produits fruités, soi-disant qu'ils sont en train de faire du business.
Malgré la bonne volonté des populations qui accompagnent le processus de déguerpissement, la morosité économique rend plus difficile la chose. Les commerçants sont ceux qui se plaignent le plus et implorent d'ailleurs la clémence du gouvernement tout en espérant qu'il y aura un accompagnement pour les relever de cette chute. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Le Burundi menace de retirer ses militaires de la mission de maintien de la paix en Somalie. Bujumbura réclame à l'Union africaine 12 mois d'arriérés de salaire pour 5 400 hommes. L'Union européenne a exigé de verser directement l'argent aux militaires, ce que le Burundi a catégoriquement rejeté. L'ancien porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Adolphe Manirakiza, accuse Bujumbura de faire de faux calculs.
Pour moi, ce qu'il est en train de faire actuellement, ce n'est qu'un chantage. On ne peut pas prendre ce risque. Le gouvernement burundais devrait plutôt adopter un profil bas et accepter que les militaires burundais soient payés directement sur leur compte. Le gouvernement burundais n'aura rien à perdre. Le gouvernement burundais est en train de faire un chantage parce que c'est sûr et certain que ce n'est pas demain ou après-demain que ces militaires seront retirés de la Somalie. Ça, c'est sûr. Parce que c'est un exercice très, très, très difficile actuellement. Et surtout que ça comporte des risques.
Le colonel Adolphe Manirakiza, ancien porte-parole de l'armée burundaise. Deux groupes rebelles poussés hors du Darfour par une offensive de l'armée soudanaise opèrent désormais principalement depuis la Libye et le Soudan du Sud, selon un rapport de l'ONU publié lundi. Le gouvernement de Khartoum, contre lequel des sanctions américaines ont été allégées vendredi par l'administration de Barack Obama, a désormais davantage de marge de manœuvre pour dicter les termes d'un accord sur le Darfour, selon le panel d'experts auteurs du rapport. Le conflit qui frappe la vaste région désertique du Darfour, grande comme l'Espagne, a éclaté en 2003 lorsque des minorités ethniques rebelles ont pris les armes contre le gouvernement du président soudanais Omar el-Béchir. À Washington, il est 6h04.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et ici aux États-Unis, on a célébré la journée Martin Luther King hier dans un contexte de polémique entre le président élu et un ancien compagnon du pasteur noir assassiné en 1968. En effet, Donald Trump a déclaré que John Lewis devrait s'occuper de sa circonscription au lieu de ne faire que parler. Ses propos pourraient envenimer davantage les relations entre le futur président américain et une bonne partie de la communauté africaine-américaine. Mais John Lewis devait-il remettre en cause la légitimité de Donald Trump? La réponse de Souleymane Bachir Diagne, il est professeur à Columbia University, au micro d'Abdoudrahman Dia.
Le mot de légitimité, évidemment, est un mot extrêmement chargé, parce que dire d'un président qui vient d'être élu, quoi qu'on pense des conditions de l'élection, qu'il n'est pas légitime, c'est évidemment une parole qui peut être interprétée dans le sens d'une remise en question de la procédure et des institutions. Tout dépend du sens que l'on donne au mot de légitimité. Il lui donnait une signification morale plutôt qu'une signification institutionnelle, mais c'est vrai que c'est une parole qui peut être perçue comme une parole qui remet en question les institutions démocratiques américaines elles-mêmes.
Cette célébration de la journée Martin Luther King, dans ce contexte de polémique, est-ce que on peut dire que les relations entre la prochaine administration Trump et la communauté noire, ces relations sont mal parties?
Écoutez, elles étaient déjà mal parties. On sait qu'au moment des élections, il s'est posé beaucoup de problèmes. On a parlé des relations que Trump, en tant que mania de l'immobilier, avait eues avec la communauté noire. On a parlé du fait qu'il avait mobilisé un certain nombre de groupes sociaux qui s'est caractérisé par le racisme, etc. Eh bien, cette polémique-ci va évidemment envenimer les choses juste à la veille de son entrée en fonction. Dire que c'est quelqu'un qui n'agit pas, mais que c'est quelqu'un qui parle simplement beaucoup, alors qu'il est la quintessence de l'action pour les droits civiques, ce que nous rappelait encore récemment le film Selma, c'était maladroit et c'est la réponse elle-même qui est de nature à envenimer les choses.
Pour ce qui est des relations entre communautés ici aux États-Unis, ces relations n'ont pas forcément été meilleures sous le président Obama. Pourquoi devrait-on s'attendre à ce que Donald Trump fasse mieux que son prédécesseur?
Vous savez, pendant la campagne électorale, la seule chose qu'il avait dite pour montrer que la communauté noire devait être plus positive envers sa candidature, c'était de dire « qu'est-ce que vous avez à perdre ?». Ce n'était pas un discours positif. Par conséquent, il n'avait rien dit de précis. Et là, dans le cas d'espèce, il y a une sorte d'inquiétude sourde qui est présente et nourrit le scepticisme par rapport à l'amélioration des choses sous la présidence de M. Trump.
Professeur Bashi Diagne de l'Université de Columbia. La Corée du Nord a dénoncé le dernier train de sanctions américaines visant notamment la sœur de son dirigeant Kim Jong-un, affirmant que le président américain sortant Barack Obama ferait mieux de se concentrer sur son déménagement de la Maison-Blanche. Le département du Trésor des États-Unis a ajouté la semaine dernière 7 noms à sa liste noire des personnalités sanctionnées pour violation grave des droits de l'homme. Parmi eux figure la sœur de Kim Jong-un, Kim Yong-jong, à laquelle on prête une influence de plus en plus grande en Corée du Nord. Cette annonce a été concomitante de la publication d'un rapport alarmant du département d'État sur la situation des droits de l'homme en Corée du Nord. L'Américain Eugene Cernan, le dernier astronaute à avoir marché sur la Lune en 1972, est mort à l'âge de 82 ans, ont annoncé sa famille et la NASA lundi. Eugene Cernan était le commandant du vaisseau Apollo 17 en décembre 1972. Il s'agissait de son troisième vol spatial et de la dernière mission habitée des États-Unis vers le satellite de la Terre. Et puis maintenant, on passe au sport et c'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Aujourd'hui, c'est le tour du groupe D de se lancer dans la compétition, la CAN 2017 du Gabon. Au programme, à Port-Gentil, Ghana, Ouganda et Mali-Égypte. On retrouve tout de suite Timothée Donangmaï, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon.
Le Ghana, dont le quatrième et dernier titre remonte à 1982, vient à cette CAN avec une soif de succès sans pareil, ayant échoué à plusieurs reprises si près du but, plus récemment en finale de la CAN 2015 face à la Côte d'Ivoire. Le coach Avram Grant espère briser le signe indien et propulser les Black Stars vers le trophée africain. En face, les Uganda Cranes, les Grues ougandaises, renouent avec la Coupe d'Afrique des Nations après en avoir été privées depuis 1978. En seconde partie ce soir à Port-Gentil, dans le groupe D, le Mali affronte l'Égypte. Le Mali, qui court toujours après son premier titre africain, a fini en tête du groupe C lors des éliminatoires. Les Pharaons égyptiens, l'équipe la plus gradée de cette CAN avec 7 titres en 23 participations, veulent retrouver la gloire d'antan qui s'est arrêtée avec leur dernier titre en 2010. Ils viennent à cette compétition avec un nouveau cru dont Mohamed Salah assume le leadership. De belles rencontres en perspective. Timothée Donangmaï, Port-Gentil, VOA Afrique.
Et hier, la Côte d'Ivoire, tenante du titre, a manqué son entrée dans la CAN 2017 face au Togo, 0 but partout. Et le Congo a battu le Maroc 1-0. Merci de nous avoir suivis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.